municipal font apparaître des résultats conformes au code administratif 2014 connu par la ville. Ce dossier est examiné le 25 juin par la commission d'urgence. Il est donc demandé au conseil de pouvoir approuver ces comptes de gestion tenus par le trésorier municipal.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention. Qui est contre ? Merci, dossier suivant.
C'est contre la gestion.
Alors, il s'agit maintenant de procéder à l'approbation du compte administratif 2014, tant pour le budget ville que pour le budget annexe cantine. Donc, ce compte administratif pour le budget ville présente pour les sections de fonctionnement les montants que nous avons déjà évoqués tout à l'heure, 230 millions en investissement, 250 millions, 230 millions en dépenses, et 250 millions en recettes, soit un résultat global de clôture de 20 056 590 euros. Le résultat net disponible après prise en compte des reports de dépenses et des recettes d'investissement qui sont reportées sur 2015, que nous avons évoqué tout à l'heure, fera donc un report net, un résultat net à reporter de 17 429 614. Pour le budget annexe cantine, les chiffres sont strictement conformes à celui que je viens de vous indiquer au sujet du compte de gestion tenu par le trésorier. Le résultat net disponible après prise en compte des reports en dépenses et en recettes d'investissement s'élève à 612 301 euros. Ces chiffres ont été expliqués dans les rapports qui nous ont été adressés avec la présente séance et qui a donné lieu au présent débat.
Merci. Je vous propose de désigner Mme Marie-Pierre Limoges en qualité de présidente de séance. D'accord. Mme Limoges, c'est à vous.
Affectation du résultat du compte administratif, tant pour le budget vide que le budget annexe. Donc, le compte administratif 2014 du budget principal vide et du budget annexe cantine que vous avez soumis à votre approbation ne dégage aucun besoin de financement. Ce dossier a été présenté à la commission des finances du 25 juin 2015. Il est proposé au conseil, conformément à l'instruction budgétaire et comptable 2014, d'affecter l'excédent de clôture du budget principal ville de la manière suivante. En report de recettes d'investissement sur 2015, 4 507 783. En report de recettes de fonctionnement sur 2015, 15 549 106. Toujours conformément à la solution budgétaire 2014, d'affecter l'excédent de clôture du budget des cantines de la manière suivante. En report de recettes d'investissement, 471 823. En report de recettes de fonctionnement,
230 291 euros.
On s'abstient.
Dossier suivant, taxe locale sur la publicité extérieure, fixation des tarifs. Donc, en application de la loi modernisation des communes, la taxe locale sur la publicité extérieure remplace la taxe d'encadrement publicitaire depuis le 1er janvier 2009. Il appartient, conformément au Code général des collectivités territoriales, donc aux collectivités, de fixer par délibération annuelle et avant le 1er juillet de chaque année les tarifs applicables pour l'année suivante, donc avant le 1er juillet 2015, pour les tarifs applicables en 2016. L'article 2333 du CGCT fixe les tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion qui est égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce taux d'augmentation étant de plus 0,4% en 2015. Il est applicable aux tarifs de la taxe locale pour la publicité extérieure à compter de 2007. Ce dossier est examiné à la commission des finances du 25 juin 2015. Il est donc demandé au Conseil, d'une part, de maintenir l'exonération de taxes sur la publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires qui sont imposés sur les mobiliers urbains ou dépendants de concessions municipales et d'affichage au profit du droit de voirie, et de fixer les montants des tarifs de publicité extérieure par mètre carré à compter de 2016 à hauteur des prix maximum autorisés conformément au projet de délibération qui ont été jointes à la convocation. Donc l'objectif, c'est de fixer le tarif au maximum autorisé par la loi.
Question ? Qui s'abstient ? Et contre ? Merci. Dossier suivant.
Alors, le dossier suivant est un dossier important puisque ça concerne la modification de la taxe de séjour sur notre territoire. Je vous rappelle que le Conseil municipal du 29 juin 2009 avait instauré sur le territoire de la ville de Courbevoie une taxe de séjour afin de mener des actions en matière de développement de promotion touristique, et ceci en lien avec les hôteliers et avec les acteurs du secteur. Initialement, donc, cette taxe s'est appliquée à compter du 1er janvier 2010. Initialement, la ville avait opté pour que la taxe de séjour soit calculée sur un montant forfaitaire. À la demande des hôteliers, après avoir réalisé une concertation avec les hôteliers, il est proposé de remplacer la taxe de séjour forfaitaire par une taxe de séjour calculée selon le mode réel, c'est-à-dire qu'elle sera calculée directement sur déclaration des hôteliers en fonction de du montant des nuitées qui auront été précisément vendues par ces hôteliers. Ce dossier a été présenté à la commission finance du 25 juin 2015. Il est donc proposé au Conseil, conformément au projet de délibération qui a été fourni, d'approuver qu'à compter du 1er janvier 2016, la modification du régime forfaitaire de la taxe de séjour sera donc modifiée par la mise en place d'un régime du réel avec ses modalités d'application, et d'approuver également la modification du tarif de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2016.
Question. Qui s'abstient ? Et bon, merci. Dossier suivant.
Alors, nous passons de la taxe de séjour au tarif relatif au cimetière, à compter du 1er janvier 2016. Il est proposé au Conseil de fixer, conformément au projet de délibération transmis avec la convocation, les tarifs administratifs des droits relatifs au cimetière. Dossier qui a été examiné par la commission finance du 25 juin 2015. Il est donc demandé au Conseil d'approuver ces tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur, qui s'abstient ? Et contre ? Merci. Dossier suivant.
Alors, il s'agit de modifier une décision modificative, numéro 2 du budget 2015. Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes à 168 389 euros en investissement et à 55 917 euros en fonctionnement, conformément au tableau qui a été annexé au projet de délibération joint à la convocation. Ce dossier a été examiné par la commission ressources humaines du 25 juin 2015. Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, les modifications qui sont impactées dans cette décision modificative concernant les subventions attribuées aux associations ont également été présentées selon leur thématique au sein des autres commissions municipales. Il est donc proposé au Conseil de voter la décision modificative numéro 2 du budget ville pour 2015. Ces décisions modificatives concernent essentiellement et pour la quasi-totalité des attributions de subventions aux associations, des attributions de subventions exceptionnelles relatives à la prise en charge par la ville des inscriptions multifamiles de 15% aux associations qui en ont formulé la demande, ainsi que quelques modifications concernant des recettes complémentaires qui ont été notifiées à la ville par les parties versantes. Je vous précise toutefois que certains de nos collègues m'ont fait savoir que faisant partie d'associations objet de la présente délibération, qui ne prête pas en part au vote concernant ces associations, sachant que les détails de ces élus figurent dans le projet de délibération qui vous a été transmis.
Question. Qui s'abstient ? Et contre ? Merci, M. Gimenez, Mme Laetitia de Villard, pour M. Spiri.
Études surveillées, convention avec la direction académique de l'ESSEC. Donc, les études surveillées organisées les lundis, mardis et jeudis des périodes scolaires dans les écoles élémentaires et primaires sont assurées par les personnels enseignants rémunérés par la ville. Dans ce cadre, une convention précisant les modalités de fonctionnement et le montant de la rémunération doit être signée avec la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine pour la prochaine année scolaire 2015-2017. Ce dossier a été édité par la commission des affaires scolaires et de la jeunesse le 24 juin 2015. Il est demandé au conseil d'approuver cette convention et d'autoriser M. Murat.
Question ?
Oui. L'article 2 de la convention stipule que l'ouverture d'une première étude nécessite un effectif minimal de 15 élèves. Si l'effectif n'est pas atteint, les élèves présents seront-ils tout simplement privés d'études ? Dans l'affirmative, un élément important de la pédagogie de la réussite serait alors remis en cause, ce qui pénaliserait les enfants en difficulté.
Jamais aucun enfant n'a été refusé à l'étude. Ils sont dans les autres études, à condition que ça ne soit pas un chiffre trop important. Parce qu'à ma connaissance, et je pense que ça n'a pas changé, même on a même des études à des effectifs inférieurs à ceux qui sont à l'étude. Jamais aucun enfant n'est refusé à l'étude avec son autre.
Donc la convention sera appliquée très peu stricte, en fait, puisque si on tombe en dessous de 15, ça va arriver assez souvent, j'imagine. Parce que comme c'est un choix, l'étude est un choix, est-ce qu'on a des statistiques par rapport aux études actuellement sur Courbevoie, quel est le nombre d'enfants qui les fréquentent ? Ce chiffre de 15 élèves correspond à un chiffre qui a déjà été utilisé dans le passé, ou c'est quelque chose qui est sorti du chapeau ? Enfin, ça vient sans doute le chiffre.
Moi, je ne peux pas vous dire. On avait des chiffres, effectivement, maximum, qui étaient différents pour trois écoles de Courbevoie, qui étaient Malraux, Guilmer et Dumas, et qui tournaient entre 18 et 22, quelque chose comme ça. Le chiffre minimum, je ne sais pas, mais ça, c'est la mesure académique.
Ils sont qui donnés ?
C'est l'inspection académique qui nous fournit les chiffres minimums pour l'ouverture des études. Et puis il est facilement envisageable de planifier les études puisque ça se fait dès l'inscription au mois de juin. Donc il est très rare de voir dans une école 15 élèves qui arriveraient comme ça en dernière minute pour se réinscrire sur une étude et qui nous obligeraient à réouvrir une étude. La période des préinscriptions, enfin des inscriptions au mois de juin, nous permet d'envisager le nombre d'études que l'on va ouvrir sur les écoles.
Bon.
Je ne prends pas part au vote.
D'accord. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Madame Tekila, s'il vous plaît.
Merci, M. le maire. Première délibération se concerne la Anne-Gardée Marceau, autour de Jean-Casse. Au lendemain d'après Marceau, il y a un appel à projet lancé par la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine visant à renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. La de garderie accueille régulièrement des enfants porteurs de handicap. Aujourd'hui, elle accueille des enfants porteurs de handicap. La Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a retenu le projet de la halte de garderie et soutient financièrement le renfort en personnel intervenant auprès des enfants handicapés. Et le montant total de la subvention s'élève à 4 000 €. Afin de percevoir l'aide ainsi allouée, il se contente de signer avec la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine une convention fixant les modalités de versement de celle-ci. Ce dossier a été présenté à la Commission des affaires sociales du 20 juin 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention fixant les modalités de versement d'une subvention pour l'accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire avec la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine et d'autres. Provenim de 2015, du Centre communal d'action sociale à la ville, et considérant les nouvelles modalités de la circulaire de la Caisse nationale d'allocation familiale relative à la prestation de services publics par en 2014, qui permet de contribuer au fonctionnement des structures municipales d'accueil des jeunes enfants, il est nécessaire d'actualiser et d'établir un seul et même règlement de fonctionnement des structures d'accueil collectif et familial des jeunes enfants. Ce dossier a été présenté à la Commission des affaires sociales du 20 juin 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver le nouveau règlement de fonctionnement des structures d'accueil des jeunes enfants, d'autant que M. le maire a soumis le dit règlement et à l'exécuter et à signer tout document sur un enfant.
Merci, dossier suivant.
Le principe de passation d'une convention de délégation de service public sur les enfants d'accueil de jeunes enfants à Montibès, puis au printemps Saint-Ferme Montibès à Côte-de-Roi, pour une durée de 6 ans, a été approuvé par le Conseil lors de sa séance du 23 juin 2014. Cette délégation doit prendre effet à compter du 1er août 2015, l'ouverture de la crèche étant prévue le 31 août 2015. La présente procédure a été passée en application des articles L1401 et suivant et R1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. À l'issue de la procédure de publicité de mise en concurrence organisée par la ville, après une première analyse des candidatures, des offres de six qui ont été reçues, des négociations avec les familles, avec les quatre entreprises reçues au stade de la candidature et qui répondaient aux demandes de la ville, avec une situation à l'étude des négociations, M. le maire a reçu la société du crèche à l'étude du la Boulogne-Biancourt. Sa proposition est en fait bien plus de mieux au cours de la clé exprimée par la ville. Sa participation de la ville s'élève à 1,43 net par enfant. Les tarifs applicables aux parents sont conformes au barème national obligatoire arrêté et actualisé par la caisse d'allocation familiale et identique à ceux appliqués dans les établissements petite enfance de la ville, conformément à l'article L1400-5 du Code général des collectivités territoriales. Il vous a été transmis le 8 juin 2020 le rapport de choix du délégataire ainsi que le projet de convention de la société Crèche Attitude sur lequel vous êtes amené à vous prononcer aujourd'hui. Ce dossier a été présenté à la Commission des affaires sociales du 25 juin 2015 et il est demandé au Conseil d'approuver la désignation de la société Crèche Attitude comme délégataire au service public pour la gestion de l'établissement d'accueil des enfants à Montibès, situé au 50 d'approuver le projet de convention de cette délégation de service public et de préciser qu'elle prend effet à compter du 1er mai 2015 et d'autoriser M. le maire à signer cette convention et tous les documents en déposant.
Question.
Oui. Le Conseil doit se prononcer sur le choix du délégataire. Première remarque, il s'agit d'un renouvellement de délégataire. Actuellement, l'établissement d'accueil du jeune enfant à Mont-Sylvestre est géré par la société Crèche Attitude. Seconde remarque, le délégataire sélectionné à l'issue de la procédure est la société Crèche Attitude. Une prime au sortant assurément, car à la lecture du dossier, nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons d'un tel choix. Pour analyser les offres en présence, il a été établi 5 critères. Qualité du projet pédagogique, qualité technique du projet, rapport qualité-prix du projet, pertinence du règlement de fonctionnement, prise en compte des aspects de développement durable. Malheureusement, ces 5 critères n'ont été ni pondérés, c'est-à-dire il n'y a eu aucune hiérarchie entre eux, ni décomposés en sous-critères permettant d'évaluer objectivement les projets. Par exemple, il y a une absence de barème de notation. De fait, les résultats obtenus nous paraissent particulièrement subjectifs et arbitraires. À titre d'exemple, prenons le critère qualité du projet pédagogique. Pour chaque candidat, il a été listé un certain nombre de points positifs. 11 pour la Maison Bleue, qui était classée premier, 8 pour People and Baby, classée deuxième, 7 pour Crèche Attitude, classée 3e ex aequo, 6 pour les petits chaperons rouges, classée 3e ex aequo. Il ne ressort de ce classement aucun élément objectif permettant d'évaluer les points positifs entre eux. Il semblerait donc que seul le nombre de points positifs obtenus ait permis de départager les candidats. Quant aux commentaires sur chaque candidat, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Cette société présente un programme pédagogique intéressant. Cette société présente un programme pédagogique novateur s'intéressant à tous les âges. Cette société présente un projet pédagogique novateur s'intéressant à tous les âges. Au classement général avant négociation, la société Crèche Attitude a été troisième. Il faut savoir que la négociation a porté sur une chose essentielle, c'est la prise en charge de travaux dans l'établissement. Remplacement de fenêtres, non changées, dalles endommagées, faux plafonds à remplacer, carrelage de la cuisine, peinture intérieure en rez-de-chaussée et en sous-sol. Une demande n'ayant que peu de rapport avec le projet pédagogique. eh bien, ça ne va pas empêcher Crèche Attitude de se classer première sur la qualité du projet pédagogique, alors qu'elle n'était que troisième ex aequo avant les négociations. Les résultats liés aux critères développement durable sont encore plus étonnants. Les éléments et commentaires mentionnés dans le dossier sont strictement identiques avant et après négociation. En revanche, le classement a changé. Crèche Attitude était troisième, elle est passée première. Enfin, Crèche Attitude n'est pas la moins chère en ce qui concerne la participation horaire de la ville. Avec 1,43€ par heure facturée, elle n'arrive qu'en troisième position sur quatre candidats. À titre de comparaison, il serait d'ailleurs intéressant de connaître la participation horaire actuellement facturée à la ville dans le cadre de la DSP en cours. Enfin, je constate que le rapport du choix du délégataire n'est pas disponible sur le réseau. Je me demande donc comment mes collègues peuvent voter en toute objectivité cette délibération puisqu'ils n'ont pas les éléments pour pouvoir juger. Une question, là j'ai deux pages qui ont été photocopiées, c'est le rapport il est là en fait. Hein. Page 18, page 33, c'est mot à mot les mêmes phrases. Sur la page là, ah, c'est mot à mot.
Avant.
C'est sur le rapport, le critère développement durable, c'est avant et après négociation. C'est exactement les mêmes. Attendez, je finis. C'est les mêmes phrases. Là, ils sont troisième, mais ils sont premiers. Rien n'a changé. Ça n'a rien changé dans la négociation. C'est bien pour ça que je parle de prime au sortant. Hein.
Madame Taquina, en fait, la question, effectivement, vous avez mentionné, moi j'étais membre, et d'ailleurs vous aviez organisé une réunion à laquelle j'ai oublié de venir, hein. Je vous l'avais dit, je m'en suis excusé. En fait, la question, je pense, ce qui ressort et ce qui m'avait effectivement, moi, une première fois frappé, c'est en fait la question suivante. C'est, on a des candidats, des entreprises qui prennent la peine de répondre et qui, je pense, enfin, vu l'épaisseur du dossier, doivent mettre de l'énergie là-dedans. Ce qui est un peu gênant dans cet appel d'offres, c'est que les critères ne sont pas très précis. Et moi, alors, je vous parle en toute honnêteté, en comparant à ce qui se passe dans les commissions d'appel d'offres, il y a notamment une séparation claire qui est faite entre la partie technique et la partie prix. Et de manière très standardisée, la partie prix, le meilleur a le maximum des points, et puis après on fait un ratio. Et du coup, on regarde effectivement, on note sur la partie technique, et puis on regarde si le prix, s'il est attractif, va peu jouer en dessus. Là, ce qui est un peu, ce qui est gênant, c'est que les critères préalables n'étaient pas très clairs. Et ce qui est gênant aussi, c'est que du coup, l'aspect prix, il y a un moyen dans le rapport, on se rend compte qu'une entreprise qui a proposé un prix assez bas, moi je me mets à sa place, elle est dans la compétition, elle essaye. Si on lui dit qu'il y a un aspect rapport qualité-prix, elle va essayer de gratter un peu, de baisser pour essayer d'être. Voilà. Et paradoxalement, elle a été pénalisée parce que elle avait proposé un prix un peu bas. Alors, on peut comprendre, et je comprends votre souci d'avoir une entreprise qui ne prenne pas un marché trop bas parce qu'on va l'avoir pendant 6 ans, et voilà. Mais malgré tout, la gêne est quand même dans le. C'est quand même une DSP de 6 ans. Voilà, que l'entreprise sortante ait donné satisfaction, c'est une chose. Elle ne doit pas non plus, pour que la compétition soit parfaitement juste, elle ne doit pas être favorisée. Elle aura déjà elle sera favorisée parce qu'évidemment, elle donnera des aspects coûts plus précis, elle connaît mieux la structure, elle sera déjà favorisée naturellement. Et donc, moi, je vous suggère, pour ces choses-là, de vous rapprocher de ce que fait le service des marchés publics, de bien mettre à part l'aspect prix, alors éventuellement en mettant un prix ou en disant clairement qu'en dessous, dans les offres, écoutez, là en dessous, on trouve que c'est pas raisonnable, et donc on a des gros doutes sur votre capacité à faire un profit, parce qu'il faut bien en faire un là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là qui pose question dans ce dossier. Vraiment regarder dans les appels d'offres classiques, effectivement, les points les plus importants vont être déjà dit dès le départ, alors ça a peut-être été le cas, mais très précisément aux entreprises pour qu'elles puissent se mettre en compétition sur les aspects les plus importants qui voient la mairie, et en même temps, ça permettra d'avoir une concurrence sur des critères. Voilà, je pense que les critères pourraient être clarifiés. C'est, je pense, l'essence de notre message sur ce dossier.
On s'abstient.
Abstention.
Abstention, oui.
Bon.
Abstention.
Abstention.
Abstention, c'est bon. Merci, madame la présidente, monsieur Jean.
Nous avions déjà adapté une convention de résidence et de l'occupation pour que la ville va accueillir son deuxième artiste en résidence afin de continuer à soutenir la jeune création artistique. Partenariat avec l'École nationale supérieure des beaux-arts du Paris, l'artiste titulaire de l'École nationale supérieure d'art plastique délivré par l'école sera accueilli dans une durée de 18 mois. Cette résidence vise à soutenir son jeune artiste par le biais de sa pratique artistique et son insertion professionnelle. Cet artiste est en œuvre pour prendre en compte la ville, l'environnement urbain et ses activités. Il y a lieu de tomber de toute part sur les suites artistiques et d'autre part les constructions de l'exposition des lieux respectivement par une convention de résidence et une convention d'occupation précaire. Ce dossier est de l'appel à la commission de culture de 2015. Il est demandé au Conseil d'appliquer la convention de résidence ainsi que la convention d'occupation précaire de telle chose.
Question ? Et ça tient. Et donc, merci, dossier suivant.
Question des tarifs de mise à disposition de salles et conservatoires au centre de la conférence à l'unité de présentation. Par délibération de 3 juin 2014, le conseil a approuvé le tarif pour les salles suivantes, espérées, foyer de boulot, foyer de l'hôpital, continuer, sachet de centre de pension, l'innovation économique. En concert à voir, le directeur est régulièrement sollicité par les associations et les particuliers désirant utiliser des salles de son établissement pour répéter, enregistrer des œuvres, etc. Il n'existe pas de tarif actuel. En reprenant la délibération précise, il serait possible d'assimiler l'auditorium de Berlioz à la salle Sachet-Coutry et les salles de cours à celle du bâtiment commun. En outre, par souci de cohérence, il serait opportun d'adapter les tarifs qui avaient été fixés pour des studios d'enregistrement et de répétition du centre événementiel et qui s'avèrent excessifs. Il est enfin proposé d'accorder la gratuité aux élèves inscrits au conservatoire. Aux associations sollicitant l'autorisation de louer une salle de façon récurrente sur toute l'année, en contrepartie de quoi elles s'engageraient à participer au moins 3 manifestations municipales par an, telles que Vitaville, les brouillards de Mans, la fête de la musique, le Téléthon, etc. Cette gratuité s'inscrit dans le cadre de l'article L2125-1. Le Code général de la propriété des personnes publiques précise que l'autorisation d'occupation et d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif au cours de la satisfaction d'un intérêt général. Ces dispositions seront proposées par une convention de partenariat dont le document a été approuvé lors de la séance du Conseil du 29 septembre 2014. Ce dossier a été présenté à la Commission des sports et des cultures le 24 juin 2014. Il est proposé au Conseil d'approuver les tarifs de l'auditorium Berlioz et des salles de cours du conservatoire à Berlioz final, ainsi que des studios d'enregistrement et de répétition du centre de conseil, spécifiés dans le projet de délibération loin à la convocation à la présente séance, et d'accorder la gratuité pour les élèves du conservatoire et les associations du camp.
Alors, lors du vote des tarifs de location du centre événementiel, nous avions relevé les tarifs excessifs, comme c'est dit dans la délibération, des salles, notamment des studios d'enregistrement. Lors du vote des subventions aux associations, nous avons aussi remarqué que celles qui avaient besoin de salles devaient les payer. La ville, pour compenser ces tarifs élevés, accorde alors des subventions à ces associations. C'est le serpent qui se mord la queue, on l'avait déjà dit. Aujourd'hui, vous ajoutez encore une subtilité à cette usine à gaz, avec la gratuité en échange de participation aux événements de la ville. C'est une manière de mettre les associations dans une situation de totale dépendance à la municipalité quand elles ont besoin d'une salle. Si les tarifs étaient raisonnables, certaines associations pourraient alors les payer sans que la ville n'ait besoin de les aider, et cela permettrait une plus grande richesse des événements de la ville et une plus grande variété offerte aux cours de voisins, puisque là, on a une concentration des activités des associations vis-à-vis des cours de voisins lors de certains événements, Vitaville, etc., alors que, en fait, les associations peuvent très bien avoir besoin d'une salle, faire des choses intéressantes sans avoir un intérêt à être dans les associations, dans les manifestations proposées par la ville. Alors, par rapport à ça, j'ai aussi une question. Quand le conservatoire a besoin de la salle Carrefour, est-ce qu'il y a un tarif? Comment ça se passe? Quand le conservatoire a besoin de la salle Carrefour, ça peut arriver. Ça arrive par exemple fin juin avec les écoles qui participent
C'est gratuit.
D'accord. Non mais. Ça... Vous confirmez ce que je pensais. Ensuite, si le conservatoire... Non, je ne pense pas à autre chose. Je pose des questions. Si le conservatoire a besoin de la petite salle du centre événementiel, ça lui coûte de l'argent ou pas? La salle 300 ou 400?
conservatoire organise ça, ça dépend pourquoi.
Non, mais si le conservatoire a besoin d'une salle qui soit pas, qui soit plus grande que l'auditorium qui compte 120 ou 150 places, qui n'a pas besoin de l'espace Carpo qui en plus est occupé très souvent pour autre chose, mais qui a besoin de la salle, la petite salle du centre événementiel, est-ce que ça lui coûte de l'argent?
Si c'est un spectacle qui monte et s'il le monte au titre de la ville, évidemment ça ne le fera pas. Si maintenant on prend les professeurs du conservatoire et on fait un spectacle propre, je ne sais pas, une association dirigée par M. Braque, ça ne verra pas le problème de plus près.
D'accord.
Pour rappeler que le conseil de la ville, c'est la puce. Ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Je le répète à nous.
Pour la ville, c'est gratuit. J'aime même répondre aux niveaux d'une association. Nous faisons énormément d'activités au niveau d'une association. C'est vraiment très riche. Avec elle, et ce que nous faisons payer tout simplement aux associations, c'est plus qu'une compensation, c'est que nous-mêmes, nous avons un problème financier, enfin, une situation financière, et pour permettre de récupérer la TVA sur la construction, nous avons besoin tout à fait de la chiffre de la terre. Voilà, tout simplement. Donc, on facture. Ce sont les spécialistes de la fédération qui nous ont conseillé cela.
Merci.
Parce que votre qui s'abstient, qui est contre. Merci. Dossier suivant, M. Jean.
On place. Tarif du conservatoire à rayonnement communal à partir du 1er septembre 2020. Les tarifs actuellement appliqués par le conservatoire à rayonnement communal sont fixés par la délibération du 25% pour la participation à l'équipe du deuxième enfant, c'est le maire de la ville, 50% pour le troisième enfant, par ailleurs, la question est donnée pour procéder au paiement des différentes prestations par le biais de trois paiements réservés, un tiers au moment de l'inscription, le tiers, deuxième tiers, le 15 décembre de l'année en cours, et le dernier tiers au 1er mars de l'année suivante. Le dossier a été présenté à la commission des sports et de la culture.
Alors, aucun enfant ne choisit d'avoir des parents ayant de faibles revenus. Avec les tarifs que vous proposez au vote ce soir, vous excluez d'office un grand nombre d'enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer ces inscriptions. Vous ajoutez à cette injustice un droit d'entrée à ceux qui s'inscrivent pour la première fois. Nous voterons contre ces tarifs et nous vous invitons à regarder comment on peut faire autrement avec l'exemple de Paris. Face à la forte demande, plutôt que de faire payer un droit d'entrée, la ville de Paris fait un tirage au sort qui évite d'exclure des enfants du simple fait que leurs parents ont moins de moyens. Et puis surtout, la ville de Paris applique un quotient, le quotient familial. Un enfant qui pratique la musique, la chorale et la danse, puisqu'à Paris, il y a un forfait pour les enfants qui fait qu'il y a ces trois disciplines, paiera 73 euros par an avec le quotient, jusqu'à 1100, qui est le quotient le plus fort, et un tarif intermédiaire à 275. Donc on a ce qu'on fait aussi à Courbevoie sur d'autres activités. D'autre part, les adultes ne sont pas exclus puisque des chorales sont accessibles aux adultes à Paris à partir de 21 euros par an jusqu'à 181, là aussi selon un quotient. Donc ça, c'est le cas de Paris. Alors j'ai regardé également, par curiosité, ce qui se passait à Puteau. Puteau qui compte deux fois moins d'habitants que Courbevoie, compte 3000 places à son conservatoire, contre 1200 à Courbevoie. Et les tarifs sont aussi très différents, puisque à Puteau, les débutants payent 90 euros l'année.
Monsieur Jean.
J'ai posé certaines de ces questions pendant la commission, je vais vous dire de l'aide. Lors de la commission ESCO de la culture du 24 juin, j'ai souhaité savoir pourquoi le domaine d'inspection au niveau conservatoire n'était pas dégressif sur le plan tarifaire et avait cité la ville de Colombes comme exemple de cette pratique. Après examen des tarifs.
Je n'ai pas cité Colombes, hein. Pas moi. Parce que je ne les connais pas. Donc,
Je termine.
Ouais. J'ai pas regardé Colombes.
Avec réduction pour la seconde inscription et les suivantes par deux. On rappelle que Courbevoie nous accordons également ce type de réduction de 25% pour le deuxième enfant, les mêmes familles, puis de 50% à compter du troisième enfant. Le défi de transition par ailleurs les nouveaux et les anciens élèves, l'avantage en ces derniers, se fait pas par
bien. C'est bien, comme ça on a Paris plutôt et Colombes.
Voilà. Bon, on va passer le vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ?
Merci. Dossier, monsieur Jean, encore.
Remplacement de la verrière de l'espace Carpeau demande une subvention. Remplacement de la verrière de l'espace Carpeau réalisé dans le cadre de l'entretien du bâtiment, le coût est destiné à 380 euros. Le conseil départemental de l'UFED participe au cœur de 20% de la dépense portable. Ce dossier est présenté à la commission des sports et de la culture. Demande au conseil d'autorité fonctionnaire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental de l'UFED et à signer le document opérant pour le remplacement de la verrière de l'espace Carpeau. Le remplacement de la verrière, surtout les demandes de subvention.
Question ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, M. Jean, M. De Cévezon.
Merci, M. Convention de délégation de services publics pour l'ensemble des véhicules autorisés sur le territoire de la commune, l'organisme de progrès, la déclaration de la justice et relance de procédure. Le principe de passation de convention de délégation de services publics pour l'ensemble des véhicules autorisés sur le territoire de la commune. Trois offres ont été reçues à l'issue de leur analyse pour cette année 2015 au conseil d'administration de la société SARM à Chétanage comme délégataire. Sa proposition était celle de réponse de l'euro côté exprimé par la ville, avec notamment une offre financière très intéressante. Par une requête et deux mémoires enregistrées le 13 avril, le 29 avril et le 4 mai 2015, dans la société Clichy des Damages, à demander au conseil administratif de Serge Pontoise d'annuler la procédure de mise en concurrence sur le site, que les renseignements fournis par l'attributaire dans son offre étaient erronés, parce que la commune ne pouvait vérifier au cours de la procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2015, le juge de l'autorité administrative a annulé la procédure. À compter que l'examen des offres contraint la ville de la reprendre à ce stade si elle entendait avant. La ville ne souhaite pas poursuivre cette procédure de nouvelle consultation, doit par conséquent être relancée. Le dossier a été présenté à la commission d'urbanisme du 4 juin de l'environnement le 22 juin 2015. Il est demandé au conseil de déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, cette procédure, de décider de lancer une nouvelle consultation de la concurrence de la gestion d'environnement. Des véhicules autorisés sur le territoire de la commune, des bâtiments fourrières et carménages des véhicules, d'approuver, au vu du rapport construit avec l'interrogation de la première séance, présentant les caractéristiques et prestations que devra assurer le délégataire, le principe de délégation de service public étant précisé que celle-ci est conclue à compter de sa date de l'application pour les durées de 5 ans.
Question ? Oui, monsieur.
On a effectivement donc ce dossier est lié à la.
Monsieur Jean, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît.
Oui, alors on a quelques. Donc ce dossier est lié hein, au document d'après. Enfin, à la délibération d'après. En fait, comment dire. Du coup, on peut peut-être vous laisser. En fait, je ne sais pas si vous voulez faire le vote, excusez-moi. Est-ce que vous voulez faire le vote groupé ou est-ce que vous voulez. C'est plus simple que vous le groupiez.
Oui,
je suggère. Bon. Donc, en fait, cette première délibération, donc c'est la déclaration sans suite de la DSP Fourrière. Et la délibération suivante sera le lancement d'une nouvelle procédure. En fait, ce qui s'est passé dans cette affaire est quand même un petit peu gênant. C'est-à-dire que une entreprise s'est vue attribuer le marché de délégation de services publics pour un certain nombre d'années et a été attaquée par l'entreprise qui est arrivée seconde, qui s'appelle Clichy Dépannage. L'entreprise perdante a eu gain de cause en justice puisque elle a fait état d'une pièce qui était erronée de sa concurrente. Et en espèce, l'entreprise en fait n'avait pas n'avait pas l'agrément administratif pour la bonne surface qu'elle prétendait avoir pour la fourrière. Ce qui nous pose question, c'est que le jugement fait état de manquements de la part de la mairie de Courbevoie sur la vérification de ces pièces. Donc ça, c'est un premier point quand même assez gênant. Et l'autre, c'est qu'en fait, quand on regarde le jugement, le tribunal administratif cassait cette attribution et demandait de reprendre la procédure de DSP au stade de l'attribution, en fait. Et une solution assez simple aurait été d'attribuer ce marché à la deuxième entreprise, donc qui avait été la piennante et qui avait été considérée comme... avoir une offre recevable. Et ce qui nous interpelle là-dedans, c'est que du coup, il a été décidé de déclarer sans suite et en fait de se lancer dans une procédure qu'on qualifie un petit peu d'usine à gaz. Parce que du coup, on arrête cette DSP et comme une procédure de DSP est longue à faire et va durer 8 mois, la mairie va lancer pendant 8 mois et en parallèle dans une autre, donc c'est pas dans ces délibérations là, mais va lancer un marché public simple pendant 8 malheureux mois pour avoir un gestionnaire de fourrière pendant 8 mois. Alors ça nous paraît extrêmement complexe comme procédure. On se demande qui va pouvoir vouloir être compétiteur sur 8 mois de fourrière seulement. Le problème qu'on voit aussi, c'est un aspect coût. En pratique, on perd. Alors plusieurs fois, il y a eu plusieurs dossiers de DSP où effectivement votre majorité a mis en avant les bienfaits de la DSP. Là, du coup, on la perd complètement puisque pendant 8 mois, on va avoir un marché en régie. On perdra l'intérêt financier qu'avait la ville, qu'avait pu négocier la ville dans une DSP. Donc là, ça sera vraiment, l'entreprise sera exécutante et fera sa marge sur chaque véhicule. Donc voilà, ça va coûter finalement assez cher en opportunité à la ville de faire cette procédure pendant 8 mois et de relancer une DSP. Alors qu'une première DSP avait été lancée et que la première a été simplement a été écartée pour une pièce, on va dire, erronée. On s'interroge sur cette procédure et on la trouve extrêmement coûteuse en temps et en énergie pour la ville.
Moi, je vais vous dire, monsieur Thomas, c'est tout ce que je déteste en politique. Vous faites du théâtre. Parce que moi, je vais vous expliquer, je vais prendre tout le monde à témoin. Alors, moi, je fais partie de la commission des fourrières. Vous faites le malin, vous faites le gentil en commission, vous dites rien. Vous réservez toutes vos remarques ici en public juste pour humilier les gens.
La communication.
Ça, c'est que du vent, là. Là, on est dans le vent absolu. Moi, c'est pas de la politique, je peux engager pour ça. Quand vous êtes en commission, vous ne parlez pas. Vous dites rien. Vous faites le gentil. Vous baissez la tête. Vous faites vos petites remarques. Juste pour plaire. Et ensuite, vous prenez tout le monde à témoin juste pour humilier les gens comme ça. Pourquoi vous faites ça? Après, ça ne sert à aucun intérêt. Là, vous avez très la chance, ça se passe. Il y a une majorité, les gens vont voter. Vous n'aurez pas peur en chose publique, mais juste que vous allez rentrer chez vous à la maison ce soir. On dira, j'ai fait une critique sympathique, je me suis fait plaisir, j'ai fait mon rôle d'opposant. Mais c'est pas comme ça la politique, monsieur Thomas. Soyez sérieux un peu. Quand on est en commission, faites votre travail. Ne venez pas comme ça prendre des gens à témoin comme ça, juste pour faire perdre du temps. Les gens ont faim, ils sont fatigués. Là, vous êtes pas du
Je vais répondre. Les enfants. Alors, je vais juste donner un exemple de politique à la façon de M. de Rambarche. Il a dit dans une interview récemment, au sujet du gâchis alimentaire, que 49 enseignes... Laisse-moi finir. 49 enseignes avaient refusé son partenariat. C'est un mensonge. Et ça, c'est la politique façon de M. de Rambarche. J'estime que M. Alban Thomas est quand même beaucoup plus digne.
Commis un amendement. Moi, je pense que plutôt c'est une tentative de fraude d'un candidat qui fait des fraudes. C'est un candidat qui a dit qu'il avait certaines surfaces et qu'il ne les avait pas. Donc c'est pas quand même une fraude de la mairie. Et puis cette situation actuelle, sans aucune incidence financière, disons pour la ville, je pense qu'il était normal de relancer. Car s'il suffit de faire, disons, un recours à la ville pour gagner, je pense que c'était pas logique. Je pense qu'il faut tout relancer parce que celui qui a été, disons, en difficulté, qui n'a pas dit la vérité, peut-être que demain, il va trouver les terrains pour le faire. Il n'y a pas de raison, c'est mieux de le mettre de côté. Je pense qu'on a essayé d'être le plus clair possible. Mais ce n'est pas le rôle non plus du directeur des services techniques ou des services d'aller contrôler, disons, sur place ce qu'ils disent. Je pense que ça, même si la préfecture a dit, ce n'est pas une chose à faire, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Si à chaque fois qu'on a des demandes, on a vérifié la véracité, je pense pas aussi l'attestation sur l'honneur, je pense qu'on prend ça, qu'on peut voir, on donne, disons, un dossier, maintenant il faut assumer. Cette personne-là aurait menti, c'est tout, voilà. Mais il y a pas de raison de prendre le deuxième parce qu'il vient gagner. C'est un petit peu la logique.
Oui, mais. Quand même, est-ce que cette entreprise avait un problème particulier? Enfin, ça va coûter effectivement quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de reprendre cette entreprise pendant 8 mois. Y avait-il un problème particulier avec cette entreprise?
Bien, alors on va quand même en deux phrases voter, je crois que c'est une bonne chose. Au moins vous votiez non pour les deux,
donc à ce moment-là. On va voter non pour les deux.
Oui, oui.
Bon. Donc, qui s'abstient?
Est-ce que j'interviens pour dire?
Merci. Nous allons passer à 2000
ans, s'il vous plaît. Je suis d'accord.
La ville a lancé un jour grande commande en vue d'associer l'établissement Fichipac de droit dans la passation de marchandises pour des prestations de fabrication et d'acquisition de repas et de thé en ville. Ainsi, une convention de grande commande a été signée entre les parties en application de l'article 8 du Code des marchandises. Cette convention a désigné la ville en tant que coordonnateur du groupement chargé de procéder dans le respect des règles prévues par ce code au lancement et à la passation de la procédure de marché public. Ainsi, une procédure adaptée en application de l'article 30 du Code des marchés publics a été lancée en vue de passer un marché de services portant sur la fabrication et la livraison de repas et de goûter en liaison froide pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. La durée du marché est fixée à un an à compter de la date de notification. Le marché est reconduit de manière tacite 3 fois pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans. La date prévisionnelle de début d'exécution est fixée au mois de juillet 2015. Alors, à l'issue de la procédure, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 29 mai 2015 a attribué le marché à la société Elior. Le marché est un marché à double commande en application.